Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le Premier ministre Édouard Philippe a fustigé ce matin la petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui a pris pour cible samedi soir des policiers et un chapiteau de cirque lors d'une soirée de violence urbaine à Chanteloup-les-Vignes. De son côté, la maire d'hiver droite, Catherine Arnoux, déplore que sa ville, de grande banlieue parisienne, soit la proie d'agressions diverses et variées depuis plusieurs jours déjà.
À quelques jours de l'an 1 des Gilets jaunes, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a récusé ce matin sur notre antenne le terme même de violence policière.
Ah oui, Sibeth Ndiaye qui préfère parler d'erreur dans un contexte de violence inédite.
Dans votre journal également, et en pleine rivalité commerciale avec les États-Unis, la Chine prépare un accueil chaleureux aujourd'hui à Emmanuel Macron.
Le chef de l'État qui est arrivé à Shanghai, capitale économique du pays, pour une visite à dominante commerciale, invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Marie-Françoise Renard, professeure agrégée à l'université Clermont-Auvergne. Enfin, en Irak, 4 manifestants ont été tués par balle près du consulat iranien à Kerbala, et ce, alors que les manifestations de désobéissance civile se multiplient dans le pays en réponse à l'appel hier du Premier ministre à retourner à la vie normale. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et c'est la semaine des prix littéraires qui débute aujourd'hui avec l'annonce des prix Goncourt et Renaudot. Ce sera autour de 13h. La grande table vous fera vivre ce moment en direct. Qui de Amélie Nothomb, de Jean-Paul Dubois, de Jean-Luc Cottalem ou de Olivier Rollin succédera cette année à Nicolas Mathieu? Une seule femme, en tout cas dans la dernière sélection du Goncourt. Elles seront peu nombreuses à avoir obtenu ce graal littéraire, les femmes, des écrivains pas comme les autres. On en parlera avec notre invitée, l'écrivaine Geneviève Brisac, auteure de Sisyphe est une femme, la marche du cavalier.
Merci et à tout à l'heure. Dans un sentiment mêlé de colère et de dégoût, ils sont des dizaines d'habitants à avoir défilé hier à Chanteloup-les-Vignes devant les ruines de l'immense chapiteau de bois et de zinc pour constater les dégâts du bâtiment culturel emblématique de cette ville des Yvelines, lequel abritait un centre des arts et de la scène et du cirque. Il ne reste plus aujourd'hui qu'une carcasse calcinée. L'arche n'a pas survécu aux violences urbaines de la veille, marquées par des affrontements entre des policiers et une trentaine d'individus au total, autant dire une minorité, probablement issue du quartier sensible de la Noé, situé à proximité. 2 personnes, dont un mineur de 17 ans, ont été interpellées. 2 enquêtes ont par ailleurs été ouvertes par le parquet, l'une sur l'incendie et l'autre sur les violences contre les forces de l'ordre. Enfin, je le disais, le Premier ministre Édouard Philippe a lui dénoncé donc ce matin, je cite, une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables. Cécile de Carvasdeux, bonjour.
Bonjour.
Alors la destruction du chapiteau samedi soir n'est en réalité, Cécile, que le dernier acte d'une série d'autres dégradations et de violences qui minent la ville depuis déjà plusieurs semaines. Pour quelle raison?
Alors paradoxalement, il faut d'abord préciser que la cité de la Noé à Chanteloup-les-Vignes faisait moins parler d'elle quand même depuis quelques années. Le plan de rénovation urbaine lancé entre 2005 et 2015 avait permis la rénovation de la majorité de ce quartier de 5000 habitants, plus ouvert, avec des immeubles de 3 à 5 étages, pas plus. La Noé s'était donc désenclavée, accueillant un grand gymnase, des espaces verts et de nombreuses associations, dont la Compagnie des Contraires, qui depuis 26 ans propose à 2000 enfants par an des cours de théâtre et de cirque. Avec cette idée fondatrice, permettre aux enfants d'expérimenter la culture, eh bien, c'est planter en eux des graines d'envie pour leur avenir. Mais reste toujours la question de l'emploi, toujours un vrai problème dans ce quartier de la Noé, où le logement social est pourtant passé de 82 à 42% en 20 ans. Alors pour y remédier, la maire de la ville a donc voulu lancer un ultime projet, il y a près de 2 ans, un vaste projet de cité éducative.
Et c'est précisément ce projet, Cécile, de cité donc éducative, qui est à l'origine des récentes émeutes et frictions quotidiennes avec la police.
Oui, depuis plusieurs mois déjà, le quartier de la Noé et une partie de la ville sont privés d'éclairage public. Les lampadaires et même les câbles d'alimentation sont régulièrement détruits ou brûlés pour faciliter le trafic de drogue et l'économie sur souterraine, oui, mais aussi pour intimider la mairie. Parce que d'ici la fin 2020, un dernier immeuble du quartier de la Noé, donc une petite poche où logent 20 familles, sera détruit pour permettre de construire une structure qui va réunir école maternelle, école primaire, collège, dans un lieu unique lié à la médiathèque et à toutes les structures d'éducation spécialisées. L'objectif, garder les élèves du quartier dans le circuit scolaire afin qu'ils soient mieux formés et qu'ils puissent trouver un emploi. Pour la mairie, c'est une manière aussi de lutter contre le trafic de drogue, vagues qui dérange, dit la mairie, deux ou trois grandes familles, tout au plus, de l'immeuble qui est donc en voie de destruction. En gros, une trentaine d'individus. Et cette reconquête de territoire s'articule aussi avec le travail de la compagnie de cirque qui a vu son chapiteau incendié ce week-end et avec le bureau d'information jeunesse, lui aussi attaqué. D'où les soutiens politiques qui affluent de toutes parts aujourd'hui. Le président du conseil départemental des Yvelines est sur place en ce moment. Il a promis de financer l'intégralité de la reconstruction de l'Arche. Quant à la mairie de Chanteloup, elle prévient « Notre méthode souple a échoué ». Aujourd'hui, c'est la police qui va prendre le relais.
Merci Cécile de Kervas-Douai. Dans la droite ligne édictée par Emmanuel Macron, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a récusé ce matin sur notre antenne le terme même de violence policière depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Tout juste la secrétaire d'État auprès du Premier ministre reconnaît-elle que des erreurs ont pu être commises et surtout face à une violence qu'elle qualifie d'inédite, eh bien Sibeth Ndiaye explique que la stratégie de maintien de l'ordre a dû s'adapter. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Les propos de la porte-parole du gouvernement ont immédiatement fait réagir Anne sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est votre politique qui est d'une violence inouïe sur une partie de nos compatriotes les plus précaires. Réaction d'un premier internaute, un second poursuit, ironique. C'est vrai que ceux qui s'enfuyaient, ceux qui étaient là juste là coincés, ou encore Zineb Redouane, cette vieille dame qui fermait ses volets, ont fait preuve d'une violence et d'un niveau de menace envers l'État qui est inacceptable. Déni de Macron à l'opposé des faits établis par des chiffres, enchaîne un troisième. Et ces chiffres, justement, le lanceur d'alerte David Dufresne les connaît bien, lui qui avait lancé le hashtag Allo Place Beauvau pour comptabiliser les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes. Des chiffres confirmés il y a deux jours par une grande revue médicale. David Dufresne estime qu'on ne peut pas parler d'erreur.
C'est-à-dire qu'on compte une quarantaine de personnes qui ont été gravement blessées à l'œil. Certaines ont perdu la vue en un an. C'est de ça dont on parle. C'est quoi la légitimité de l'État français de mutiler son peuple? Ça suffit pas de dire l'État a la légitimité de la violence, n'en parlons plus. Si, on doit en parler.
Quant au niveau de violence inédite dont parle Sibeth Ndiaye, l'auteur de Dernière Sommation qui vient de paraître chez Grasset n'est pas non plus d'accord. Il rappelle les manifestations de mai 68 ou encore celles des marins-pêcheurs dans les années 90. Ce qui est inédit, au contraire, selon lui, c'est la répétition et la longévité de ce mouvement. Alors Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a lancé en juin une grande réflexion pour adapter le schéma national du maintien de l'ordre. Le document final était attendu en septembre, sujet qui apparaît délicat. Aujourd'hui, aucune conclusion définitive n'en est sortie.
Merci Anne Fauquemberg. Il y aura d'abord eu la honte profonde, tenace, indélébile, et puis la colère qui ne l'a pas quittée pendant des années. Dans un article publié hier par nos confrères de Mediapart, l'actrice Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel. Les faits remonteraient au début des années 2000. La comédienne était alors âgée entre 12 et 15 ans. De son côté, le cinéaste a lui aussitôt et catégoriquement contesté les faits. Quant au site d'investigation, il affirme, à l'issue d'une enquête qui aura duré 7 mois, avoir contacté une trentaine de personnes confortant le témoignage d'Adèle Haenel. Je vous propose d'écouter justement celle qui a mené cette enquête. La journaliste Marine Turchi, interrogée ce matin chez nos confrères de France Info.
Ça a été une longue enquête de 7 mois et ce qui explique Adèle Haenel, c'est que c'est le documentaire sur Michael Jackson révélant des témoignages accablants et dénonçant la pédocriminalité qui a été un déclencheur pour elle. C'est ça qui est à l'origine de son témoignage. Et nous, ce qu'on a fait, évidemment, c'est qu'on a vérifié tout ça pendant 7 mois. J'ai contacté tous les témoins de ces différentes époques, des lieux, des dates qu'elle donnait. J'ai voulu montrer que dans ces affaires-là, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas du parole contre parole systématiquement. On peut trouver des documents, on peut trouver des éléments, on peut trouver des témoignages. Ce qu'elle explique, c'est qu'il y a un conditionnement au départ qui se fait sur le tournage de ce film de l'époque. C'est son premier film qui s'appelle Les Diables. Une emprise qui aurait commencé ce tournage, dit-elle. Elle explique aussi l'importance de ce réalisateur à l'époque pour elle, puisqu'elle dit « j'avais le jeu dans les tripes, c'est ce qui me faisait me sentir vivante. Mais pour moi, le cinéma, c'était lui. Et c'était lui qui avait fait que j'étais là. Sans lui, je n'étais personne. » Et donc, elle avait du mal à se sortir de cette emprise, cet ascendant qu'il avait sur elle, d'après ce qu'elle raconte. Elle en a beaucoup parlé au fil des années, alors pas sur le tournage des Diables, mais un petit peu plus tard dans sa vie. Elle a notamment posté une lettre à Christophe Ruggia dénonçant les faits. Ensuite, elle en parle encore à des gens, notamment à la SRF, la Société des réalisateurs, et elle se heurte un petit peu à un mur quand même. C'est-à-dire que quand elle essaie de parler, elle n'est pas forcément entendue, ou les gens ne savent pas tellement quoi faire de ses confidences, et ça dit beaucoup de choses sur notre société aujourd'hui face au sujet des violences sexuelles.
Et je précise par ailleurs qu'Adèle Haenel ne souhaite pas porter plainte et précise préférer ignorer une justice qui, selon elle, ne condamne pas suffisamment les auteurs d'agressions sexuelles. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été prise pour cible la nuit dernière par des malfaiteurs qui ont enfoncé la porte de l'édifice à la voiture bélier pour y dérober une partie de son trésor, en l'occurrence plusieurs objets liturgiques de valeur, dont certains en orfèvrerie. Lors de son premier voyage dans l'Empire du Milieu, Emmanuel Macron avait promis de revenir au moins une fois par an, promesse tenue donc, puisque le président français, accompagné de son épouse, mais aussi d'une importante délégation de chefs d'entreprise, est arrivé aujourd'hui à Shanghai, la capitale économique de la Chine, avant de se rendre à Pékin mercredi pour de nouveaux entretiens avec son homologue. Alors pour la France, l'objectif de cette visite est on ne peut plus clair. Prendre au mot les autorités chinoises s'agissant de leur souhait affiché d'ouverture du marché aux importations et aux investissements. Quant à la Chine, eh bien ses intentions sont là aussi limpides, renforcer ses contacts avec les Européens, alors même que son économie marque aujourd'hui des signes de ralentissement, un recul aggravé évidemment par la guerre commerciale avec les États-Unis. Toujours est-il qu'au total, on estime donc qu'une quarantaine de contrats devraient être signés à cette occasion. C'est une correspondance de Dominique André.
Une promenade surprise sur le Bund, le quai historique de Shanghai, et le chef de l'État est entré dans le vif du sujet. Emmanuel Macron, épaulé par le futur commissaire européen au commerce, est là pour équilibrer la relation avec la Chine. La France souffre d'un déficit commercial de 29 milliards d'euros. La Chine a promis d'ouvrir son marché intérieur et organise une foire des importations. Nous le prenons au mot, dit-on à l'Élysée. Deux tiers des entreprises du pavillon France de la foire sont des petites entreprises hyper spécialisées dont la Chine a besoin, comme celle de Christian Leroux, M2I, 150 employés dans le sud de la France.
On est une des plus petites entreprises présentes dans cette délégation. D'avoir la lumière que peut nous apporter la délégation du président de la République par rapport aux autorités chinoises au moment où on veut se développer sur ce pays, c'est génial.
Est-ce que vous croyez aux promesses du gouvernement chinois d'ouvrir le marché intérieur ?
Nous sommes dans un domaine très spécifique. La Chine est envahie depuis maintenant 2 ans par un insecte qui s'appelle la Notuelle d'automne, qui s'attaque au maïs, qui s'attaque au riz, qui s'attaquent à la canne à sucre et au tabac. Le fait d'avoir une entreprise française qui leur propose une solution alternative avec des produits propres, c'est très intéressant pour les Chinois. Après, je ne sais pas ce que ça donnera l'ouverture du marché intérieur, je suis incapable de vous le dire.
Ce soir, réunion inédite avec Emmanuel Macron, le commissaire européen Phil Hogan et les entreprises. Un front européen se constitue pour peser dans la négociation avec la Chine.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer cette visite d'Emmanuel Macron en Chine, invité de la rédaction aujourd'hui, Marie-Françoise Renard, professeure agrégée à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste de l'économie de la Chine en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Auvergne. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Une première question madame Renard. À chaque déplacement d'un chef d'État étranger en Chine, la question lancinante reste la suivante. Osera-t-on parler droits de l'homme, plus exactement des persécutions, en l'occurrence auxquelles du Xinjiang, région à majorité musulmane, à Hong Kong, territoire semi-autonome, les opposants à Pékin sont aujourd'hui soumis. Business et droits de l'homme sont-ils à ce point incompatibles ?
Alors ils sont pas très compatibles et surtout il est peu probable que le chef de l'État français, comme les autres chefs d'État, évoque cette question publiquement. On peut souhaiter qu'elle soit évoquée en privé pour que les pays occidentaux manifestent leurs valeurs et leur critique vis-à-vis de cette politique. Mais le gouvernement chinois considère que c'est une affaire interne et donc il est peu probable qu'elle soit évoquée publiquement.
Donc quand le chef de l'État assure que la question sera abordée sans tabou, c'est sans tabou mais en privé.
Oui, et on ne sait pas ce qui est dit en fait.
Question d'Annabelle Grelier.
Alors l'année dernière, les exportations françaises ont progressé de 11%, ce qui pèse environ 21 milliards d'euros. Mais la balance commerciale avec la Chine reste déficitaire, près de 50 milliards d'euros. Alors comment la guerre commerciale dans laquelle s'est lancé Donald Trump et les États-Unis peut-elle profiter à la France et plus largement l'Europe ?
Alors, cette guerre commerciale, elle coûte cher à la Chine qui donc va se tourner vers d'autres pays et l'Europe peut en profiter. Mais il faut pas non plus être naïf parce que on a des avantages comparatifs dans certains secteurs, donc on a des produits qui peuvent être intéressants pour la Chine, mais ils ne le sont pas tous et ils vont pas le devenir du jour au lendemain. On sait par exemple que pour la France, on a un certain nombre de secteurs traditionnellement exportateurs vers la Chine, comme l'aéronautique et puis tout ce qui est agroalimentaire, mais on a d'autres faiblesses faiblesses qui ne sont pas qu'avec la Chine. Le déficit de la France en matière de commerce extérieur, il n'est pas spécifique à la Chine, il existe dans d'autres pays. Et donc l'intérêt pour la France, ce serait d'accentuer la pression vis-à-vis de la Chine pour qu'elle ouvre ses frontières à des produits français, notamment dans l'agriculture, par exemple la viande, et profiter de la fièvre porcine pour essayer d'exporter plus de porc, ou de libéraliser le marché chinois, d'ouvrir le marché chinois. Comme la Chine subit une pression de la part des États-Unis pour faire moins de protectionnisme, ça peut être le moment d'accroître cette pression pour qu'elle se tourne vers le marché européen, mais qu'elle ouvre encore certains secteurs qui, pour l'instant, sont difficilement pénétrables. Bien sûr, on exporte de l'agriculture en Chine, mais il y a des contraintes qui sont très importantes, et je pense que le président français va essayer, comme tout le monde le dit, de négocier de la réciprocité en disant, si vous voulez qu'on continue à ouvrir nos frontières, il faut ouvrir les vôtres, et c'est sans doute la voie qui peut être intéressante pour l'Europe.
Alors quand vous dites mettre la pression sur la Chine, donc quels sont les leviers? La réciprocité, vous venez de le dire, mais y en a-t-il d'autres?
Alors, il n'y a pas énormément de leviers, évidemment, mais d'autant que la Chine est un très grand pays et que la France est un petit pays qui n'a pas un rôle très important vis-à-vis de la Chine. Mais le marché européen est un marché important pour la Chine. Et donc, il n'est pas non plus impossible d'envisager, c'est ce que fait la Commission européenne depuis un an, de dire on va demander de la réciprocité en matière de commerce et surtout en matière d'investissement. Parce que la Chine a aussi besoin de l'Europe, qui est son premier partenaire commercial. Mais encore une fois, ça veut dire qu'on parle d'une voie européenne, et de toute façon, la politique commerciale, elle est européenne. Donc la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron, elle n'est pas extrêmement large.
Alors dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on estime que les États-Unis posent les bonnes questions, mais apportent les mauvaises réponses avec leur guerre commerciale. Quelle est votre analyse ?
Alors, il pose certaines des bonnes questions parce que la Chine est encore évidemment un pays protectionniste, en tout cas, enfin tous les pays font du protectionnisme, mais la Chine a des règles intérieures qui limitent la pénétration des produits étrangers et des entreprises étrangères. Et de ce point de vue-là, on peut effectivement penser qu'il est nécessaire de faire pression sur la Chine pour qu'elle ouvre plus son marché. Maintenant, de considérer que cela va régler les problèmes de l'industrialisation américaine, certainement pas, d'ailleurs on le voit. Les entreprises américaines qui quittent la Chine ne sont pas très nombreuses et elles vont au Vietnam, elles ne vont pas aux États-Unis. Et ensuite, le protectionnisme coûte très cher à tout le monde. Donc ce sont des mesures qui sont extrêmement coûteuses, y compris pour les États-Unis. Ça coûte cher à la Chine. Or, la Chine et les pays d'Asie tirent la croissance mondiale. Donc si la croissance chinoise a des difficultés, cela va être coûteux pour tout le monde. Cela coûte de l'argent aux États-Unis, cela coûte à la Chine, parce que la production est organisée en chaîne de valeur, donc dans le monde entier. Donc il y a une telle interdépendance que les guerres commerciales sont coûteuses. Donc c'est effectivement une mauvaise réponse à une bonne question.
Alors, bon, les secteurs exportateurs de la France, on les connaît, l'aéronautique, la cosmétique, le pharmaceutique, 40 contrats devraient être signés lors de ce déplacement d'Emmanuel Macron, hein, puisqu'il est accompagné évidemment de nombreux patrons et chefs d'entreprise. Est-ce que c'est une bonne jauge, 40 contrats, et puis qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre?
Alors, c'est très difficile à dire parce que les contrats, ils sont très difficiles à négocier, ils sont assez longs. Et donc, à chaque visite présidentielle, on annonce des signatures de contrats. On se rend compte après que la signature n'est pas forcément encore effective. Et de toute façon, ça fait des mois, voire des années, que les négociations sur ces contrats sont en cours. Donc, c'est très difficile de dire que ce qui va être signé, effectivement. Et de toute façon, la visite du président permet de formaliser ça et de communiquer autour de ces contrats, mais ils ne sont pas liés à la visite du président et les négociations sont bien antérieures.
Merci Marie-Françoise Renard, professeure agrégée, je le rappelle, à l'Université Clermont-Auvergne, spécialiste de l'économie de la Chine, d'avoir répondu à notre invitation en duplex depuis chez nos confrères de France Bleu, pays d'Auvergne. Et merci également à Annabelle Grelier. Parce qu'il est le plus prestigieux, mais aussi le plus prescripteur pour les ventes de romans. Il est évidemment le plus convoité des prix littéraires du monde francophone. 4 écrivains étaient en lice cette année pour décrocher le prix Goncourt. Jean-Luc Coitalem, Jean-Paul Dubois, Olivier Rollin et Amélie Nothomb. Et le verdict vient de tomber.
À Jean-Paul Dubois, pour Tous les hommes n'habitent pas le même monde, aux éditions de L'Olivier, par 6 voix contre 4, à Amélie Nothomb pour Soif, chez Albin Michel. Avait obtenu des voix au premier tour, Jean-Luc Coatalem pour La part du fils chez Stock et Olivier Rollin pour Extérieur Monde, Gallimard.
Voilà, Jean-Paul Dubois, donc 69 ans, nouveau prix Goncourt pour Tous les hommes n'habitent pas le monde. De la même façon, un roman, Olivia, bouleversant, nostalgique sur le bonheur perdu.
Oui, et c'est la deuxième fois consécutive que Jean-Paul Dubois figurait dans les sélections de la liste du Goncourt après la succession en 2016. Il vient donc de remporter le plus prestigieux prix littéraire de la place de Paris et ouvrir ainsi la semaine des prix, puisque on a appris aussi la remise du Goncourt, du Renaudot, pardon, en même temps au restaurant Drouot. Drouot, ça se passe chaque année comme ça à Paris. Vont suivre l'Interallié, le Médicis et le Fémina, notamment pendant la semaine. Juste sur Jean-Paul Dubois, c'est un ancien grand reporter, c'est un écrivain à la plume assez particulière, voire exceptionnelle, et écrivain toulousain qui écrit tous ses romans, dit-il, en un mois précisément. Pas un jour de plus ni un jour de moins, il est un peu comme un sportif de haut niveau. Quand il se met à sa table, il n'en décolle plus, tant qu'il n'est pas venu à bout de son projet. Il écrit des romans qui sont souvent assez nostalgiques, axés sur la question de la mémoire, axés sur la question de la famille, axés sur la question du deuil. Ici, dans Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est de la prison où il est incarcéré que Paul, ancien gardien d'immeuble à Montréal, remonte le fil de ses souvenirs. C'est le fils d'un pasteur danois et d'une mère athée qui va raconter sa jeunesse, ses voyages, la séparation de ses parents ou encore la perte de la femme pilote qu'il aimait tant dans un accident d'avion. Voilà pour Jean-Paul Dubois. Donc, nouveau prix Goncourt 2019. Et pour le Renaudot, c'est Sylvain Tesson, hors de toute attente. Donc, il l'a obtenu pour La Panthère des Neiges. Il n'était pas dans la dernière sélection du Renaudot. Il vient, comme l'année dernière, c'est une sélection surprise. L'année dernière, le Renaudot qui avait consacré Valérie Manteau pour le Sillon paru au Tripode, qui est sorti de sa dernière sélection, le jury du Renaudot, pour consacrer l'écrivain Sylvain Tesson. On y reviendra dans la grande table.
Absolument, à l'issue du journal. Merci, Olivia. La visite était prévue de longue date, mais on ne peut pas dire qu'elle tombe particulièrement bien. Le roi d'Espagne, Felipe VI, accompagné de son épouse et de ses deux filles, sont en déplacement aujourd'hui et demain à Barcelone. Or, on le sait, depuis l'annonce des peines de prison contre les dirigeants indépendantistes, eh bien la capitale catalane est en proie à des troubles réguliers. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que le roi n'y est pas franchement en odeur de sainteté. C'est une correspondance de Mathieu Taillac.
Ils n'ont pas oublié son discours d'il y a deux ans, le 3 octobre 2017, deux jours après le référendum d'indépendance illégale. Le roi Felipe VI prenait la parole à la télévision. Allait-il appeler au dialogue entre Madrid et Barcelone, regretter les charges violentes de la police contre les activistes venus voter au référendum ? Non, le chef de l'État a prononcé un discours de très grande fermeté, dénoncé, je cite, « une déloyauté inadmissible de la part des autorités régionales » et appelé les institutions espagnoles à « assurer l'ordre constitutionnel ». Fin de citation. Pour les Catalans, indépendantistes ou non, qui pensaient que le roi pouvait jouer un rôle d'arbitre entre le gouvernement espagnol et la région catalane, ce fut la douche froide. Depuis, Felipe VI est détesté par les indépendantistes et admiré par les partisans les plus fermes de l'Union de l'Espagne. C'est sans doute pour cela que Madrid a envoyé 400 policiers anti-émeutes espagnols en complément des agents de la police catalane. Plusieurs organisations indépendantistes radicales ont appelé à des mobilisations pour empêcher le roi et la famille royale de participer aux événements qu'ils doivent présider. Le roi, la reine et leur fille doivent notamment remettre les prix princesse de Gérone, une cérémonie qui met en valeur la princesse Léonore, héritière du trône d'Espagne.
Et puis toujours en Espagne, j'ajoute que les trois nouveaux sondages publiés ce matin dans la perspective des élections législatives de dimanche esquissent tous une victoire du Parti Socialiste, mais une victoire insuffisante pour espérer constituer une majorité claire au Parlement. Le mouvement de protestation contre le régime s'intensifie en Irak, tandis que partout dans le pays, les actions de désobéissance civile se multiplient, qu'il s'agisse du blocage des routes ou de certains champs pétroliers. Plusieurs syndicats ont, eux, déclaré la grève générale. Ou quand, en sortant de son silence hier soir, pour réclamer un retour à la vie normale, le Premier ministre Abdel Mahdi aura, semble-t-il, surtout réussi à tendre de nouveau le bras de fer. Et puis même si depuis le début de ce mouvement, les protestataires appellent pour l'essentiel à une refonte du système politique dans un contexte de colère croissante suscité à la fois par la mauvaise gouvernance et le manque de perspectives économiques, voilà que depuis quelques jours, la grogne se concentre à présent sur l'Iran. C'est ainsi par exemple que la nuit dernière, quatre manifestants qui, parmi d'autres, tentaient d'incendier la représentation diplomatique de Téhéran dans la ville sainte chiite de Karbala ont été tués par les forces de l'ordre. Il faut dire que l'Iran, pays voisin, est aujourd'hui le grand parrain de l'Irak. Or, de plus en plus de manifestants, Christian Cheneau, accusent désormais la République islamique d'être l'architecte, en quelque sorte, du système politique de leur pays qu'ils jugent corrompu et incompétent.
Il faut dire que depuis 2003 et la chute de Saddam Hussein, la République islamique n'a cessé de tisser des liens politiques, sécuritaires et économiques très intenses avec son voisin irakien. Trop sans doute, jugent certains manifestants qui n'hésitent plus à brûler des drapeaux iraniens. Il faut couper les tentacules de l'Iran, proclame un immense graffiti sur la place Tahrir, épicentre de la contestation à Bagdad. Le guide suprême, Ali Khamenei, est lui aussi la cible de la vindicte populaire, ainsi que son premier centurion, le général Qassem Soleimani, commandant de la force El-Quds, chargée des opérations extérieures des gardiens de la révolution. Les déclarations du numéro 1 iranien, Ali Khamenei, accusant les manifestants d'être les instruments d'un complot américain, ont convaincu la rue irakienne que Téhéran voulait étouffer la révolte. Des propos qui ont réveillé le nationalisme irakien. Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, a d'ailleurs prévenu qu'aucune partie régionale ou internationale ne pouvait imposer son opinion aux manifestants. L'Iran joue gros en Irak, étranglé par les sanctions américaines, Téhéran veut préserver ses intérêts, notamment économiques et commerciaux. De nombreux accords lient les deux pays et la direction iranienne ne souhaite évidemment pas l'émergence d'un nouveau pouvoir irakien qui pourrait remettre en cause les relations bilatérales actuelles. Pour Téhéran, la partie est donc serrée pour ne pas perdre son influence chez son voisin et maintenir une relation stratégique avec Bagdad.
On termine ce journal avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par le déplacement vers le sud-ouest, le massif central et jusqu'aux Alpes de la forte perturbation arrivée hier sur la façade atlantique. À l'arrière de cette masse pluvieuse, le ciel hésitera entre de brèves périodes ensoleillées, de nombreux passages nuageux ponctués de quelques ondées. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 23 degrés. Et puis je précise qu'après le passage de la tempête Amélie, encore 23 000 foyers étaient privés d'électricité à la mi-journée. Tous situés en région Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.